شلبية عيونا روزية حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني بنت الشلبية عيونا روزية حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني
Bonsoir à tout le monde. Donc, nous démarrons l'émission Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère. Cette émission, donc Radio Galère 88.4, c'est bien ça ? Oui. Cette émission donc, est animée par différentes associations qui soutiennent la lutte des Palestiniens. Et ce soir, donc, c'est BDS Marseille et Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui anime l'émission. Donc je suis avec Bernard.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir, et je suis donc Jean-Yves. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet. Celui de Palestine 13, c'est www.assopalestine13.org. Celui de BDS France, https://www.bdsfrance.org. Vous pouvez également consulter les pages Facebook de Palestine 13, donc Palestine 13 simplement, et BDS France Marseille. Voilà. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à asso.palestine13@gmail.com. Voilà, donc nous démarrons cette émission. Donc, vous avez peut-être l'habitude, si vous nous avez déjà écoutés, qu'une fois par mois, avec Bernard, nous faisons une petite revue de presse. Donc, la revue de presse complète est consultable sur le site de Palestine 13, www.assopalestine13.org. Donc, à partir de d'ici la fin de la semaine, il y a un fichier qui vous donne des liens vers les articles sur Internet qui nous ont paru intéressants pour alimenter votre réflexion. Voilà. Donc, et nous allons reprendre quelques articles dans cette revue de presse pour Radio Galère. Et nous allons les détailler. Voilà. Alors, tout d'abord, n'oublions pas les appels au boycott. Hein. Parmi les appels au boycott qui aujourd'hui sont en cours, sont dans les tuyaux, hein, je vous rappelle, Microsoft, donc, qui participe à la surveillance des Palestiniens puisqu'ils ont racheté une entreprise qui fait de la reconnaissance faciale. Donc tout ça, vous le trouvez dans l'article dont je vous parlais sur le site. Hein. Il y a également Amazon. Continuez, si vous avez commencé, et puis mettez-vous-y si vous ne l'avez pas encore fait, à boycotter Amazon qui emmagasine fric un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et qui transfère aux États-Unis. Hein. On a vu que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est devenu le plus riche de la planète. Hein. Il a doublé son capital
après le confinement.
Après le confinement. Mm-hmm. C'est quand même dingue. Et donc voilà, ne boycottez Amazon, consommez des choses qui sont près de chez vous et évitez d'aller acheter chez Amazon. Tout ce que vend Amazon, de toute façon, vous le trouvez ailleurs. Hein. Et puis Puma, qui sponsorise les équipes israéliennes de football qui profitent de la colonisation et de l'enfermement des Palestiniens. On aurait pu rajouter un mot aujourd'hui, puisque c'est toujours pas fini, boycotter aussi le Tour de France, hein, qui, qu'Israël utilise pour promouvoir le cyclisme à travers sa marque Israël Startup Nation. C'est de la propagande de la Hasbara israélienne pour dire, voyez, comme nous sommes bien beaux, bien propres sur nous et tout, on est une démocratie, on est moderne, etc.
Oui, mais Tour de France qui rencontre sur son chemin des banderoles où il est inscrit « Apartheid Nation ».
Tout à fait.
Donc, évidemment, ça change.
Oui, sauf que à la télé, ils arrivent à cacher le maximum, quoi.
Non, je crois que...
Je n'ai pas regardé.
C'est hallucinant parce que... ils étaient à l'envers. Les banderoles étaient à l'envers. Ah. Elles étaient à l'envers, pardon.
D'accord.
Mais ce qui n'était pas à l'envers, c'était l'immense drapeau palestinien qui était au sol. Donc ça,
photo, ouais.
Je pense que le pilote ou le caméraman qui sont dans l'hélicoptère, ils ne connaissent pas le drapeau palestinien, ça m'étonnerait.
Ouais.
Pourtant, le gros zoom dessus a eu lieu. Donc évidemment, ça pose une question, c'est quoi ce truc?
Mais je pense que ceux qui sont en régie ont dû être briefés quand même, certainement, hein, en leur disant, voilà, dès que vous voyez ces quatre couleurs-là, enlevez-les.
Mais c'était la première fois.
Ils ont raté leur coup, peut-être.
Voilà,
tant mieux. Hein.
C'est après qu'on a dû leur dire, là, c'est fini.
Voilà, disons merci à ceux qui se...
Mais le drapeau, il devait faire 20 mètres de long.
Oui, j'ai vu la photo.
Formidable.
Donc voilà, boycotter le Tour de France, hein, et qui veut nettoyer les crimes d'Israël. Donc avant de passer aux différents articles dont on va vous parler, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu ces dernières semaines et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Qui s'intitule « Berbères juifs, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord » par Julien Cohen-Lacassagne. Franchement, c'est un livre qu'il faut absolument lire. C'est un livre très érudit, extrêmement documenté, qui est bien dans la lignée du livre que Shlomo Sand avait écrit « Comment le peuple juif a été inventé ». Shlomo Sand qui signe d'ailleurs le prologue de ce livre, et dans lequel il explique que l'existence d'une dispersion du peuple juif est niée catégoriquement, aucune découverte archéologique n'ayant pu prouver cette dispersion. Donc le peuple juif n'existe pas parce que le judaïsme s'est répandu en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord, etc., par prosélytisme. Donc, sont cités quatre royaumes, en plus du royaume khazar, en Europe de l'Est, quatre royaumes qui se sont convertis au judaïsme. Donc, ils citent l'Adiabène, c'est vers le Kurdistan, le royaume de Himyar, au Yémen, Beta Israël, où les gens sont surnommés Falacha, c'est en Éthiopie, et le royaume de Diya Al-Kaïna, en Afrique du Nord. Et comme Shlomo Sand, Julien Cohen-Lacassagne, donc, attribue l'existence de populations juives en différents pays à un prosélytisme juif qui a disparu ensuite pour se protéger lorsque la religion chrétienne s'est développée. Ils se sont refermés sur eux-mêmes pour préserver leur religion, hein. Et il affirme par ailleurs que tout monothéisme est par essence prosélyte, contrairement au culte polythéiste qui tolère, toujours par essence même, l'existence d'autres dieux. Ils en ont plusieurs, donc qu'il en existe d'autres ailleurs, ça ne les gêne pas. Hein. Donc Julien Cohen-Lacassagne s'attache à l'histoire du monothéisme en Afrique du Nord et il décrit comment il s'est implanté chez les populations berbères du fait de pratiques relativement proches, en fait. Les berbères pratiquaient la circoncision. Au niveau alimentation aussi, ils étaient proches. Donc tout ça sous l'influence de juifs prosélytes. Et il explique aussi comment l'islam a pu se développer ensuite pour des raisons similaires. Les religions juives et musulmanes étant proches l'une de l'autre, plus éloignées en tout cas toutes les deux de la religion chrétienne qui nie l'unicité de Dieu, qui est vraiment le dogme dans l'islam et dans le judaïsme. Dieu est unique. Et les chrétiens, avec l'histoire de la Trinité, en fait, pour eux, c'est un faux monothéisme.
Oui, mais pour eux, parce que oui. Un seul Dieu en trois personnes, c'est quand même du monothéisme. Quand on pense aux chrétiens ou au catholicisme comme une religion qui n'est pas monothéiste, c'est pas tellement un seul Dieu en trois personnes qui est visé. C'est la ribambelle de saints qui ont été créés, qui servent à créer des dévotions particulières qui font que le monothéisme est légèrement dévié de sa trajectoire pour que des âmes, entre guillemets, simples, puissent avoir accès directement au saint qui a leur préférence, celui comme saint Antoine de Padoue, comme disait ma grand-mère, qui aide à retrouver ce qu'on a perdu, comme saint Christophe qu'on met sur sa voiture parce que c'est le protecteur des voyageurs, et ainsi de suite. Voilà.
Mais dans le bouquin, il dit bien que c'est la Trinité qui constitue, pour l'islam et le judaïsme, qui constitue une hérésie dans le catholicisme. Et quand tu dis, il y a les saints, bon d'accord, mais les saints, c'est quand même pas des dieux. Ça s'apparente, et par contre, il précise aussi que la religion, enfin, d'après lui, la religion chrétienne, elle a pris le pas, en tout cas dans nos pays, sur la religion juive à l'époque. Elle a réussi à prendre le dessus, justement parce qu'elle laissait la porte ouverte, à travers cette Trinité, à l'existence de plusieurs dieux, et ça allait plus dans le sens des gens, de ce qu'ils avaient l'habitude. Donc voilà.
Et non, je crois que l'abstraction est encore plus forte dans un seul Dieu en trois personnes que dans un Dieu tout-puissant qui est unique. Moi, personnellement, du point de vue théologique, ça me paraît plus compliqué.
Ce que lui, voilà. Donc, dans cet ouvrage, il y a ce dont on vient de parler, mais il y a autre chose là à propos de cet ouvrage, ce que j'ai beaucoup aimé. Julien Cohen-Lacassagne citait des propos de Netanyahou, disant que Hitler ne savait que faire des juifs. Et le mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, lui aurait conseillé de les brûler. Ça, c'est ce qu'a raconté Netanyahou il y a quelque temps, là. Ce qui est bien évidemment un mensonge honteux. Saeb Erekat, secrétaire général de l'OLP, a dit à ce sujet « Netanyahou déteste tellement les Palestiniens qu'il est prêt à absoudre Hitler pour le meurtre de 6 millions de juifs ». Et en tout cas, pour Julien Cohen-Lacassagne, les propos du Premier ministre israélien traduisent une volonté de révision historique qui visant à incriminer les Arabes pour en faire les acteurs et propagateurs majeurs de l'antisémitisme, qui est théorisé par beaucoup comme le nouvel antisémitisme qui met en cause les musulmans, mais aussi l'extrême gauche, affublée du sobriquet d'islamo-gauchisme. Alors, si je le retrouve, je voudrais vous lire un petit extrait de ce livre où il parle de cette responsabilité, justement, que l'on transfère de l'Europe, qui est quand même la première responsable, sur les pays du Moyen-Orient et, accessoirement, les gauchistes. Donc, au cours des dernières années de la guerre froide, un courant qui n'est pas encore achevé tendait à repousser la responsabilité du génocide juif en direction de l'Est, notamment vers la Pologne. Le film Shoah de Claude Lanzmann contribua à fonder cette tendance. Les plans larges sur la campagne polonaise et les interviews de paysans repoussaient visuellement la judéophobie et le meurtre de masse des Juifs d'Europe vers des marges supposées incultes de l'espace européen. En 1985, dans ce long métrage de 9 heures, Lanzmann n'accordait pas une minute à la politique anti-juive menée par Vichy. Les lignes de chemin de fer qu'il filmait aboutissaient à Auschwitz, mais aucune ne partait de Drancy ou de Beaune-la-Rolande. En revanche, la brutalité des Polonais, en particulier ceux appartenant aux classes les plus basses et les plus fragiles, ne cessait d'être rappelée.
Et les plus catholiques surtout.
Voilà.
Puisqu'à la sortie de l'église, on avait droit à ça, à cette scène assez incroyable, où Lanzmann tendait son micro à des personnes qui sortaient de la messe et qui disaient, mais bien sûr que on comprend ce qui s'est passé, on n'a rien fait, parce que vous comprenez, c'est eux, les Juifs, ouais, qui ont tué Jésus.
Voilà, ouais. Donc il continue en disant, après la fin de la guerre froide et avec l'inclusion des États de l'ancien bloc de l'Est dans l'Union européenne, il a fallu déplacer les responsabilités de l'horreur génocidaire encore un peu plus loin, un peu plus à l'Est, un peu plus en dehors de la sphère européenne, c'est-à-dire en Orient, dans un mode arabe et musulman débarrassé de la tutelle coloniale. Cette tendance a puisé dans une habitude courante consistant à diffamer tout mouvement arabe en laissant supposer sa collusion avec le fascisme, à l'instar de Guy Mollet qui comparait Nasser à Hitler en 1956 pour le crime d'avoir nationalisé le canal de Suez. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ce livre qui m'a beaucoup plu. Alors, Cindy... Oui, Sidi, est-ce que tu pourrais passer l'extrait ? Donc, on va écouter un extrait d'un conseil municipal de la ville de Strasbourg, dans lequel ils ont voté une motion contre l'antisémitisme, hein, suite à l'agression d'un graffeur qui portait un t-shirt sur lequel était inscrit Israël. On connaît ces motions qui se contentent d'enfoncer des portes ouvertes, un peu à la manière de la définition de l'antisémitisme par l'IHRA, mais c'est dans les débats qui précède le vote, que se cachent des propos parfois nauséabonds et en tout cas souvent mensongers, on va le voir ici.
Cet acte a profondément choqué non seulement la communauté juive, mais de nombreux Strasbourgeois. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, la communauté juive se sent comme prise dans un étau. Vous avez parlé notamment de l'extrême droite, vous avez raison, de manière non seulement récurrente, mais même historique. Il y a un négationnisme, un antisémitisme au sein, d'une partie de l'extrême droite, mais aussi d'autres craintes qui émergent. C'est évidemment l'extrémisme religieux, notamment l'islamisme politique, qui a une influence et qui a un impact, notamment sur l'antisémitisme, mais aussi une partie de l'extrême gauche. Je voulais notamment parler du BDS, qui manifeste, et c'est vrai que c'est une réelle crainte pour un nombre important de membres de la communauté juive, de voir des personnes qui manifestent ouvertement à Strasbourg, capitale des droits de l'homme, pour demander le boycott d'un pays. Je tiens à vous dire que l'Union européenne elle-même condamne les agissements du BDS et un tel boycott. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que quand il y a un jeune graffeur qui a sur son t-shirt ou sur son polo la mention Israël, eh bien, effectivement, comme le disait Alain Fontanelle et Pernel Richardot, eh bien, il y a une action, ça a suscité cet acte d'antisémitisme. Donc, effectivement, il faut qu'on puisse combattre tous ces étaux, toutes ces forces qui vont à l'encontre de la communauté juive strasbourgeoise.
Il n'a pas honte, le gars.
Oui, voilà. Alors là, on est face à une question essentielle, parce qu'on se rend compte que d'habitude, ce sont les États qui décide si les groupes comme BDS sont antisémites ou s'ils sont... qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Là, la CEDH, la Commission européenne des droits de l'homme, a dit et décidé qu'il n'y avait pas de poursuite à l'égard de BDS pour des questions d'antisémitisme. Mais on se rend compte quand même, à travers ce qu'on vient d'entendre, que les pouvoirs locaux, eux, continuent sur la lancée de la condamnation, au moins verbale, de BDS. Ils ne vont pas jusqu'au tribunal, mais verbalement, ils condamnent BDS comme étant assimilé à un groupe, entre guillemets, on pourrait dire presque terroriste, hein, puisque il le dit à peu près à mot couvert, mais il le dit. Et c'est désolant de voir que personne ne le reprend, ni la presse, ni même son assemblée. Là, on n'a pas entendu dire qu'il y ait quelqu'un qui soit opposé à ce qu'on vient d'entendre verbalement. Non. Donc c'est absolument navrant de voir qu'après la décision de la CEDH, on en soit encore là. Ça veut dire que le chemin, Jean-Yves, sera encore long quand on parlera de BDS pour dire non, BDS est un mouvement d'origine palestinienne, qu'il est non-violent et qu'il appelle à un boycott qui est aussi non-violent. Voilà. Et ce n'est pas de l'antisémitisme.
Ouais. C'est la résistance à la colonisation.
Absolument.
Et contre un régime qui est un régime de colonisation, voilà. D'apartheid. Donc avant de passer au reste de l'émission, on va écouter un petit morceau de musique, « Oh, This World ». Donc c'est une chanson qui a été produite conjointement par World Vision et Al-Kamanjati Association. Donc Al-Kamanjati, on en a déjà parlé, c'est une association qui s'occupe de former les jeunes Palestiniens à la musique. Elle parle de la violence contre les enfants palestiniens à l'intérieur et à l'extérieur des écoles, et en particulier la violence de l'occupation. Donc voilà, les étudiants expriment, ce sont des étudiants d'Al-Kamanjati, association à Jénine, qui chantent, et ils expriment la façon dont ils sont privés de leurs droits humains et sociaux, les plus de base en raison de l'occupation israélienne.
حضن الدافي ضلوا خقوم
Donc si vous avez l'occasion, allez regarder le clip sur YouTube. Franchement, c'est magnifique de voir ces enfants qui chantent, qui rient et tout, malgré les conditions dans lesquelles ils vivent et qu'ils dénoncent à travers cette chanson. Donc, Bernard va nous parler de l'apartheid. Donc, l'Organisation israélienne de défense des droits humains, Yesh Din, a analysé le régime d'occupation imposé par Israël en Cisjordanie en se basant sur les définitions de l'apartheid telles qu'elles sont fournies par les Nations Unies et la Cour pénale internationale. Et ils sont arrivés à la conclusion que le crime contre l'humanité d'apartheid est perpétré en Cisjordanie. Les auteurs sont israéliens et les victimes sont les Palestiniens.
Alors, ce rapport a cherché, comme le disait Jean-Yves, à établir son rapport. Les rapporteurs ont établi leur rapport à partir d'observations réelles de ce que serait la définition d'une situation d'apartheid. Et effectivement, ils ont relevé qu'en Cisjordanie, il existe des Juifs israéliens et des Palestiniens, les seconds constituant 86% de la population totale. Mais la situation locale est particulière, notent les auteurs du rapport, car à la domination et l'oppression de l'occupation militaire s'ajoute la présence d'une importante population de colons, ce qui indiscutablement constitue un élément du crime d'apartheid. Entre parenthèses, surtout si on se souvient que ces colons sont généralement armés jusqu'aux dents. Et le rapport ajoute d'autant que l'inégalité des statuts civiques et politiques des uns et des autres est patente. Le statut des Palestiniens dans ce système est d'autant plus pesant qu'ils sont gouvernés par des militaires en vertu d'un régime juridique qui cumule la réglementation militaire israélienne et les législations jordaniennes, britanniques et ottomanes, le tout subordonné au moins en théorie à la législation internationale régissant l'occupation militaire. Le régime des colons israéliens qui vivent parmi eux est en revanche totalement civil, fondé sur des lois adoptées par le Parlement israélien qu'ils élisent ou ils peuvent se faire élire. Autre trait caractéristique de la séparation entre Israéliens et Palestiniens en Cisjordanie, elle est fondée sur un régime de permis qui ne s'applique qu'aux Palestiniens. Aucun Palestinien ne peut entrer dans une zone où existe une présence israélienne, civile ou militaire, sans raison précise et surtout sans disposer d'un permis spécial, délivré ou non, par l'administration civile israélienne, c'est-à-dire par la branche de l'armée qui gère l'occupation. À l'origine, il s'agissait d'interdire l'entrée des Palestiniens dans les colonies, puis dans l'espace qui les entoure, appelé « zone de sécurité spéciale ». Par la suite, après la construction du mur barrière, lorsque des centaines de kilomètres carrés de terre palestinienne se sont retrouvés isolés entre le mur et la ligne verte qui définit le contour de la Cisjordanie, le régime des permis a été étendu à cette zone de jonction et les Palestiniens qui se sont retrouvés séparés de leurs terres agricoles par le mur doivent disposer d'un permis pour entretenir leurs terres ou veiller sur leurs vergers. Alors que n'importe quel Israélien, juif ou touriste étranger peut y accéder librement. Et d'ailleurs, j'ajouterai moi qu'ils ne s'en privent pas, puisque bien souvent ils font la récolte avant les Palestiniens, ou armés de tronçonneuses, quand ils sont face à une oliveraie, ils déciment les oliviers en les tronçonnant les uns après les autres. Selon une étude conduite par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, auprès de 67 communautés palestiniennes, 18% seulement des agriculteurs qui cultivent des terres dans la zone de jonction ont obtenu le permis nécessaire pour continuer leur travail. À ce régime de permis s'ajoute, pour souligner encore la séparation entre Israéliens et Palestiniens, un réseau compliqué de routes spécifiques, baptisé par les militaires israéliens « dérivation » ou « route de contournement », assigné aux seuls véhicules palestiniens et beaucoup moins bien entretenu que le réseau réservé aux colons, cet enchevêtrement de routes secondaires tortueuses oblige les Palestiniens à de longs détours jalonnés de tunnels lorsqu'ils croisent une route principale réservée aux Israéliens. Alors ces routes réservées aux Israéliens, c'est presque comme une autoroute hein, chez nous. Mais eux, c'est des chemins caillouteux et qui serpentent dans des collines. Mais ça permet aux colons de circuler sans jamais rencontrer les véhicules portant la plaque blanche et verte délivrée par l'autorité palestinienne. Alors Jean-Yves, tu es allé en Palestine, moi aussi. On y a été véhiculé et je peux te dire, je m'en souviens, qu'on a été évidemment à la fois les témoins occasionnels et les victimes occasionnelles de cet état de fait. Mais quand le chauffeur du bus nous disait « Regardez, on va là-bas », on se disait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Oui. On partait, on faisait des détours épouvantables dans des chemins poussiéreux, caillouteux, parce qu'on ne pouvait pas utiliser les routes réservées aux colons.
C'est souvent aussi parce que les endroits que l'on allait visiter sont relativement isolés et peuplés uniquement de Palestiniens. Du coup, ils avaient leur propre chemin et pour y aller, il fallait emprunter ces chemins-là. Par rapport à l'occupation et à la présence de l'armée en Cisjordanie, de l'armée israélienne, donc l'armée, tu disais que les colons n'étaient pas soumis à la même réglementation que les Palestiniens. Les Palestiniens sont soumis à une réglementation militaire.
Oui.
À la merci de l'humeur de n'importe quel gradé. Et les colons, ils sont soumis aux lois israéliennes.
Civiles.
Et l'armée est là pour protéger les colons, puisque quoi que fassent les colons, tout le monde, enfin, en tout cas, beaucoup de gens ont déjà eu l'occasion de voir des vidéos où les colons, comme tu disais, vont couper les branches des oliviers.
Les troncs.
Les Palestiniens cherchent à les en empêcher, l'armée, elle va arrêter les Palestiniens, les empêcher d'avancer, etc. Et elle va laisser les colons continuer. Voilà. Mais cet apartheid, donc tu l'as dit, c'est un crime de guerre. Eh bien, il se peut qu'un jour, les Israéliens aient à s'en repentir et à rendre des comptes là-dessus, puisque, en fait, Israël devrait, un de ces jours, passer devant la Cour pénale internationale.
Et alors, de façon absolument sympathique, je dirais, c'est l'Union syndicale solidaire qui nous le dit. Israël devant la Cour pénale internationale, dans un article intitulé « Il est plus que temps ». Le 20 décembre 2019, Fatou Ben Souda, procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, a exprimé sa volonté d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre commis en Israël-Palestine en vertu du statut de Rome, précisant que l'enquête portait sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Suite au débat qu'elle a ouvert avec les spécialistes internationaux du droit sur les compétences territoriales de la CPI, elle estime aujourd'hui, dans un document de 60 pages, publié le 30 avril 2020, qu'une telle enquête peut être ouverte. Parmi les obstacles, celui de savoir si l'État de Palestine, bien qu'il ne soit ni souverain ni indépendant, est habilité à saisir la CPI et à poursuivre Israël pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Paradoxe, des manœuvres israéliennes, la Palestine se voyait déniée de son droit d'être un État en vertu des accords d'Oslo, alors que ces accords prévoient cet État, mais qu'Israël en empêche la création depuis près de 30 ans. Les chancelleries traditionnellement alliées d'Israël se sont mobilisées, les États-Unis, le Brésil, la Hongrie, l'Allemagne, l'Autriche, mais aussi une équipe internationale de juristes, tenez-vous bien, conduite par Robert Badinter, qu'on a connus plus soucieux des droits humains. À cela s'ajoute la sempiternelle accusation d'antisémitisme qui est de plus en plus déplacée. Mobilisation procédurière sans précédent. Et pourquoi ? Pour empêcher que des crimes soient jugés, pour protéger des criminels, pour protéger une puissance militaire occupante. L'obstacle a été levé et la procureure a bien confirmé l'habilitation de la Palestine. Question posée depuis plus de 5 ans. 5 ans pendant lesquels Israël a bombardé Gaza, causant des milliers de morts qui auraient pu être évitées. Si les victimes palestiniennes de crimes de guerre dus à la colonisation israélienne s'accumulent depuis plusieurs décennies, une intervention de la CPI aurait pu permettre d'épargner la vie des civils manifestant chaque semaine depuis 2 ans pour défendre leurs droits et assassinés à bout portant par l'armée israélienne. Un ministre israélien a déclaré voir chez Fatou Ben Souda l'influence de la campagne BDS. Nous y revoilà. Paradoxalement, c'est l'occasion pour le mouvement de solidarité avec la Palestine auquel appartient notre syndicat, c'est Solidaire qui parle, de découvrir que la stratégie juridique est une voie complémentaire de celle du boycott citoyen et que les deux doivent être menés de front. En plus de rendre justice, la possibilité pour la Palestine de déposer plainte auprès de la CPI est une reconnaissance et une fierté dont la portée symbolique est non négligeable. La chambre préliminaire de la CPI, composée de 3 juges, doit maintenant entériner la décision de la procureure. C'est en général une formalité si les juges ne cèdent aux pressions ni aux tentatives de manipulation. D'autres obstacles surgiront peut-être. Le Conseil de sécurité peut par exemple retarder d'un an l'enquête lancée par la procureure. Alors, ce qu'on peut quand même relever, Jean-Yves, c'est que il y a deux États qui se sont toujours assis sur le droit international en priorité, c'est les USA et Israël.
Je ne sais plus qui, dans un livre, celui qui est Israël, maintenant, il pisse du haut du...
Oui, c'est Sylvain Sipel qui raconte ça. Voilà, oui. Avant, il se cachait, maintenant, il pisse du haut du plongeoir, voilà. Oui, c'est vrai. Mais voilà, j'ai été scié d'entendre que Trump allait dire à Fatou Ben Souda, la procureure, oui. Si vous avez des avoirs aux États-Unis, c'est fini, voilà. Ils seront... voilà. Donc, c'est-à-dire que à un geste politique fort, mu par le droit international, les populistes disent « mais on vous aura au tournant parce que, un, vous ne pourrez plus venir chez nous, deux, on gèlera vos avoirs si vous en avez ». Et quant à Netanyahou, il remue ciel et terre pour que ça ne voit pas le jour, cette histoire.
Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit très nouveau, ça, parce que quand même, les États-Unis, sans remonter bien loin, mais... Ou par exemple à ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud passé un temps, mais quand ils ont été en Irak aussi, ils ont été menacés de passer en jugement devant justement la Cour pénale internationale. Les soldats qui ont, à la prison d'Abu Ghraib, etc., qui ont maltraité des prisonniers, ce qu'ils ont fait avec les prisonniers qu'ils avaient enfermés à Cuba, je ne sais plus, dans le...
Guantanamo.
Voilà, Guantanamo. Donc, en fait, les États-Unis aussi ont commis des crimes de guerre et du coup, ben, ils ont peur pour,
oui, mais alors, pour leurs oreilles. On peut conclure en disant simplement que le gendarme du monde ne doit pas passer en justice.
C'est ce qu'ils pensent, en tout cas.
Voilà. Moi, gendarme du monde, je ne peux pas répondre favorablement à une accusation pareille.
Nous sommes la démocratie, donc...
Voilà. Donc, Israël, se prenant pour le sous-brigadier de l'État gendarme, réagit pareil.
Oui.
Voilà.
Et donc, en fait, suite à cette décision de la CPI de juger les crimes israéliens, donc, en Israël, quand même, ils ont commencé à se faire du souci. Et donc, quand la Cour a confirmé qu'il y avait assez de preuves pour poursuivre une enquête sur les crimes de guerre en Palestine occupée, le gouvernement israélien a répondu avec sa rhétorique habituelle, accusant la communauté internationale de partialité et insistant sur le droit d'Israël à se défendre. En fait, ils savent qu'il y a une enquête de la CPI sur les crimes de la guerre et que ça pourrait leur coûter cher, en particulier tous ces gens qui ont participé au bombardement sur Gaza, depuis Netanyahou, depuis Oud Olmert, jusqu'à Gantz, qui aujourd'hui, donc, ils s'en vantent même, ils s'en est vanté en tout cas lors des dernières élections en Israël, qui se vantent d'avoir mis Gaza à genoux. Voilà. Donc, dans le document de la CPI, il y a quand même un grand nombre de questions, de doutes, de rapports soumis ou soulevés. Mais il faut savoir quand même que, en fait, ils ne vont pas s'attacher qu'aux crimes de guerre d'Israël, ce qui paraît logique, mais également à ceux du Hamas et du Fatah. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. Mais voilà, donc peut-être que justice va pouvoir passer un de ces jours en Israël. Donc on va faire une deuxième pause musicale. Donc c'est une artiste qui s'appelle Julia Boutros. Elle a un large répertoire patriotique et en fait, il s'inscrit habituellement dans le cadre de la résistance contre Israël, voire du nationalisme syrien. Donc, dans le morceau que nous allons entendre, Anna Bet Nafa Sorié, Je respire la liberté, c'est devenu l'hymne de tous les soulèvements locaux suivis de près par un autre qui s'appelle Nous sommes la révolution et la colère. Donc voilà, message toujours très actuel, Julia Boutros, il me semble que c'est une Libanaise. Je vous laisse écouter.
لولا من فضلك
très très beau. Pareil, le clip très 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 beau. Donc nous allons maintenant, enfin, c'est encore Bernard qui va nous parler de quelque chose qu'il a trouvé dans l'Obs, Nouvel Observateur, écrit par un poète, Elias Cohen. Et c'est une tribune en fait, et Elias Cohen est un kibboutznik religieux. Il est membre fondateur d'un mouvement de réconciliation, comme quoi tous les Israéliens ne sont pas sionistes. C'est un poète et militant, et il défend ici une perspective très originale sur le conflit, toujours ce mot de conflit, ce terme de conflit qui est quand même mal adapté, sur le conflit israélo-palestinien.
Et alors, il intitule « Deux États indépendants dans la patrie unique et commune ». C'est à cette conclusion que sont parvenus donc, les gens de son mouvement, un pays pour tous. Il y a 8 ans, et avec nos associés palestiniens, nous avons élaboré une vision neuve qu'on peut résumer ainsi. Deux États, une patrie unique. La reconnaissance d'Israël-Palestine comme une entité géographique et historique unique, comme la patrie de deux peuples. La reconnaissance du besoin de chaque peuple à une autodétermination nationale et ce faisant à la création d'un État palestinien avec un retard de plus de 70 ans aux côtés d'Israël. Ces deux États instaureront des relations de coopération et leurs frontières, établies selon les lignes de démarcation de juin 1967, seront ouvertes. L'établissement d'une confédération, l'Union Israël-Palestine, sur le modèle de l'Union européenne, de sorte que tous les habitants du pays et tous les ressortissants des deux États seront citoyens de l'Union, et leurs droits reconnus et garantis par les instances créées à cet effet. Jérusalem sera unifiée, commune, capitale de chaque État et de l'Union, et sera gérée en commun. Dans chacun de ces États existera une minorité nationale significative dont les droits seront préservés de sorte que pourront être résolus deux problèmes considérés jusqu'ici comme insolubles. Les habitants des implantations seront autorisés à demeurer citoyens d'Israël et de l'Union et résidents de Palestine sur le territoire de l'État palestinien, tandis que les réfugiés palestiniens et leurs descendants, selon un système agréé, pourront vivre comme citoyens de Palestine et de l'Union et comme résidents d'Israël sur le territoire de l'État d'Israël.
Alors on a besoin d'utopistes. Par contre, c'est vrai que quand on regarde l'attitude des colons dont tu parlais tout à l'heure, ça paraît difficile d'imaginer que ça soit possible. Pourtant, ce qui me paraît bien dans cette idée, c'est le fait que... On coupe l'herbe sous le pied à l'accusation par Israël de toutes les volontés de faire droit au peuple palestinien. Ils disent chaque fois, mais on va détruire Israël. Non, il n'est pas question de détruire Israël. Je ne sais plus qui disait, mais je l'ai entendu dire souvent par Pierre Stamboul qu'on ne construit pas quelque chose de solide en créant une nouvelle Nakba, par exemple, en mettant dehors tous ces gens qui sont nés en Israël. Donc il n'est pas question de ça. Là, on fait une fédération. Et surtout, les gens, ils arrivent à s'entendre et à vivre ensemble. Ce qui est difficile, tant qu'il y a le mur de séparation aussi, qui n'est pas une barrière de sécurité, contrairement à ce que dit Israël.
Oui, mais ça coupe l'herbe sous les pieds d'un État officiel, l'apartheid.
Oui.
Et ça, c'est la première fois que j'ai rencontré un texte qui élabore ce genre de projet. Mmh. Et effectivement, comme tu l'as souligné, c'est étonnant et très, très agréable de voir que ça vient d'Israël, d'un Israélien, et qu'il élabore quelque chose qui est extrêmement simple à comprendre et dont le fonctionnement peut paraître aussi extrêmement simple à mettre en place.
Tout à fait.
Voilà.
Oui. Non, mais franchement, c'est vrai que... C'est l'avenir, peut-être, espérons-le. Une fois que Netanyahou, Gantz et consorts et tous les militaires qui prennent régulièrement le pouvoir en Israël, une belle démocratie, n'est-ce pas?
Une démocratie avec des galons.
Voilà, comme en Amérique du Sud. Donc, il y avait un autre article aussi, alors, sur Middle East Eye. donc, à propos d'une solution à un seul État. En fait, Israël préfère une solution à un seul État. J'avais assisté à une conférence qu'avait fait Eleonore Bronstein une fois à Martigues. Mm-hmm. Je l'avais rencontrée à Tel Aviv aussi, mais elle était venue à Martigues. Elle avait fait une conférence où elle parlait, présentait son bouquin sur la Nakba qu'elle avait fait avec son mari Aitan. Et donc, en fait, elle disait, mais c'est depuis l'extérieur que l'on va pouvoir imposer une solution viable, une paix en Israël-Palestine, parce que on n'a jamais vu un seul pays qui est capable de renoncer à ses privilèges. Des privilèges, donc la colonisation, elle en donne, mais des tas à Israël, puisqu'aujourd'hui, il a tous les pouvoirs. Et donc, aujourd'hui, donc c'est Joseph Massad qui a écrit un article qui dit que Israël préfère une solution à un seul État qui protège ses privilèges coloniaux. On est dans un État colonial et donc il veut garder tous les privilèges que ça lui rapporte.
Oui, mais tu as vu, il fait aussi un petit rapport entre ce qu'ils appellent la colonisation de peuplement, un peu, enfin la démographie en tout cas, oui. Où il commence à avoir un peu les jetons, parce que si jamais un jour le droit au retour existe, ou existait, pardon.
Faudra bien.
Voilà, d'un seul coup, boum, il y a 7 ou 8 millions de personnes qui arrivent. Et effectivement, en termes démographiques, c'est très, très mauvais. Si évidemment, on ne calcule le fonctionnement de la société que de cette façon, en disant plus il y a d'Israéliens, plus on est fort, moins il y a de Palestiniens, plus les Israéliens conservent le droit de saisir cela. Moi, je veux dire, ça me. Avec ce qu'on vient d'évoquer précédemment, je trouve que c'est des calculs un peu sinistres, ça.
Oui, mais le droit au retour, c'est aussi. Quelque chose qu'il faut absolument garder.
Mais
tous
oui.
ces gens. Finalement, l'autorité palestinienne, elle s'occupe des Palestiniens qui sont en Cisjordanie. Les Palestiniens qui sont en Israël, il n'y en a rien à foutre. Les réfugiés, il n'y en a rien à foutre. Et ça avait été flagrant une fois où Mahmoud Abbas, il avait organisé une réunion pour parler de tous les problèmes palestiniens. Et il avait fait ça à Ramallah. Alors qu'il sait très bien que les représentants des réfugiés, qu'ils soient au Liban ou autres, ne pouvaient pas venir, et de même le Hamas. Donc il fait un truc, une réunion de l'OLP, l'OLP qui doit en principe représenter tout le monde, et puis personne, ou presque à part lui, pouvait y être. Donc ça. Et quand on regarde l'article dont tu parlais juste avant, « Deux États, une seule patrie », il dit bien les réfugiés et leurs descendants, selon un système agréé, parce que il y en a beaucoup qui ne voudront pas revenir, peut-être, ou qui préféreront revenir en Cisjordanie. Par contre, Israël, aujourd'hui, est un État puissant. Pourquoi il est un État puissant? Il a quand même profité au maximum de terres qui étaient cultivées, qu'il a volées. Donc, tout ce qu'il a volé, ça ne lui a rien coûté. Et par contre, il en profite directement. Tous ces gens à qui il a pris leurs biens, les maisons, etc. Donc Israël a profité d'une façon honteuse de la colonisation.
C'est bien ce qu'ils disent un peu plus loin, d'ailleurs.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est-à-dire bien falloir.
Non, mais tu as vu ce qu'ils disent un peu plus loin. Hein. C'est c'est exactement ce que ça. Ils disent, au fond, ils se comparent avec les Blancs d'Afrique du Sud.
Voilà.
Et ils disent, regardez, quand les Noirs quand Mandela est devenu président, les Blancs continuent à prospérer. Donc ce qu'il nous faut, disent les Israéliens, même au pire, hein,
ouais.
Pour eux, c'est qu'on puisse continuer à prospérer. Mais je crois que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que la Torah puisse être gravée dans le marbre chez eux en disant « cet endroit est à nous ».
Non, mais ça, c'est les colons, les colons religieux, mais c'est pas la majorité d'Israël. Aujourd'hui, c'est cette partie-là de la population qui gouverne. Mais parce que les autres, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils se retrouvent avec une situation plutôt enviable, ils n'ont pas de problème. Donc pourquoi ils iraient chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Mais les réfugiés, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. On leur dit, soit vous revenez. Il y en a une avec deux alternatives. Soit vous revenez chez vous, soit on vous indemnise. Parce que ces choses que l'on a volées aujourd'hui, c'est ça qui fait la richesse d'Israël. Donc il faut bien que les réfugiés qui sont à l'origine de ça puissent à leur tour en profiter. Ça me paraît très logique. Un peu comme aujourd'hui, on rencontre encore de temps en temps, on entend parler de restitution des biens volés aux Juifs pendant la guerre par les Allemands. Mais l'Allemagne leur a restitué leurs biens. Pourquoi aujourd'hui Israël ne restituerait pas aux Palestiniens les biens qu'ils leur ont volés? Enfin, ça me paraît d'une évidence.
Bien sûr. Mais bon, et voilà. On peut dire que tout arrive, puisque j'ai lu qu'il y avait une ville d'Alabama de 80 000 habitants qui avait voté en conseil municipal un dédommagement aux Noirs pour raison de l'esclavage. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où les choses bougent. Oui. Donc voilà.
C'est un peu d'optimisme. Dans ce monde de brut. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est bientôt l'heure. Donc, voilà. Rendez-vous le mois prochain, donc toujours à la même heure, pour la prochaine revue de presse. Il y avait d'autres articles dont on voulait vous parler. Donc, n'oublions pas Gaza, qui était bombardé encore s'est fait bombarder pendant plusieurs nuits d'affilée. Et puis, juste un dernier point, peut-être vous en avez entendu parler, puisque même les radios nationales en parlent, la France équipe ses drones d'armes, de bombes. Et on a balancé des bombes depuis des drones au Mali. Donc on en parle parce que c'est la France, c'est bien. Et donc ils ont interviewé des Maliens qui sont... En fait, ils sont terrorisés parce qu'ils disent quand il y a un avion qui vient nous bombarder... On sait, on l'entend. Un drone, on ne l'entend pas. Et puis, il y a un bourdonnement, on ne sait pas où il est, etc. Et pensons aux gens de Gaza et de Cisjordanie, où des drones se baladent en permanence au-dessus de leur tête, dans un bourdonnement incessant.
Et on reparlera de l'accord du siècle, vu par la France et par le ministre des Affaires étrangères.
Voilà, qui a salué le truc, alors qu'aujourd'hui...
En disant, il faut arrêter l'annexion...
Alors que l'annexion, elle existe. Voilà, donc bonsoir et à dans un mois. Et n'oubliez pas d'écouter Radio Galère tous les mercredis. Merci à Sidi qui a assuré la technique. Au revoir.
من قلبي.